Philippe et Catherine, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors voilà, nous revenons d'un voyage assez particulier, la transhumance avec les nomades Aïdata. Et c'est une expérience très particulière, très étonnante. Et on va essayer un petit peu de partager ces moments vécus avec la famille nomade en traversant l'Atlas. Je vais faire une petite présentation. Donc les Aïdata sont une tribu semi-nomade. Dans leur fief est situé dans les montagnes du Jbel Sarro, où vous êtes d'ailleurs allé marcher déjà il y a quelques années. Voilà. Et là, vous les aviez aperçus peut-être un peu ces nomades.
Nous avions aperçu les nomades Aïtata qui remontaient en fait au Djebel Saro
D'accord.
depuis leur transhumance, depuis l'Atlas. Donc on avait croisé des groupes qui montaient de manière très impressionnante. Je les avais croisés dans un endroit très escarpé. J'avais été très impressionné de voir l'enchevêtrement d'ânes, de chameaux, les enfants sur les chameaux. Enfin, c'était très impressionnant et ça m'a donné envie de. Très envie d'en savoir plus sur le sujet.
Donc en fait, c'est l'origine de pourquoi vous êtes là aujourd'hui alors peut-être un peu.
C'est une des origines,
Une des origines.
parce que voilà, on a un attachement et un intérêt ancien pour le Maroc et pour le sud du Maroc et pour la région de l'Atlas et du Sahara.
Alors ces nomades, leur fief, c'est le Jebel Sarraou, dans l'emplissement de l'anti-Atlas. Et puis l'hiver, ils descendent dans les plaines du Drap pour échapper au froid et bénéficier des pâturages du Drap. À la fin de l'hiver, ils remontent dans le Sarro, leur montagne, où ils ont leur campement. Ils ont des lieux attitrés où ils vont déposer leur tente. Hein. Ce n'est pas des campements fixes, hein, c'est itinérant. Et puis ensuite, ils rejoignent le Dadès, au mois d'avril. Ils rejoignent le Dadès et nous les avons rejoints cette année, mi-mai, pour effectuer la transhumance avec eux, avec leur famille, leur troupeau. Et un petit groupe de voyageurs, on a rejoint l'Atlas. Et puis on rejoint l'Atlas au lieu où nous les avons rencontrés. Le 16 septembre, nous avons quitté Marrakech pour rejoindre notre petite famille sur le flanc nord de l'Atlas, au-dessus d'Azilal. Brahim nous attendait au bord de la route avec les chameaux pour prendre les bagages et nous avons rejoint la famille nomade. Alors, Catherine, comment as-tu trouvé cette rencontre? Comment s'est passé l'aspect visuel déjà avec cette famille nomade sous la tente nomade en laine marron?
C'était finalement un moment très très fort et en même temps très simple. On a été accueillis vraiment chaleureusement par cette famille et toujours avec un verre de thé et ils offrent avec ce thé je trouve beaucoup d'eux-mêmes et voilà, c'était déjà un premier contact et c'était un contact très très chaleureux.
Effectivement, donc le patron, enfin le mari de la caravane s'appelle Lassène Ben Youssef, sa femme Tloho, sa grande fille Isa et la petite Siham, une petite gazelle qui nous accompagnait tout le long de la traversée. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc là, nous sommes partis de l'altitude 2540 mètres, le Tizi Ouanoums, non, pardon, le Tizi Ouaoussramt, excusez-moi. Où là, nous sommes partis le matin avec la caravane qui avait chargé ses bagages sur les chameaux, sur les ânes. Et nous avons marché pour rejoindre le lac Izoara. Et avant de rejoindre le lac Izoara, nous sommes passés à côté de la vallée de Bouguemez. Et je crois, Philippe, tu avais déjà fait une première rencontre dans la vallée de Bouguemez et on a fait ce petit détour justement pour revivre un peu ces instants de cette vallée reculée au cœur de l'Atlas.
Oui, voilà, enfin, il se trouve que le premier voyage à l'étranger que j'ai fait, le premier voyage réellement dépaysant, j'étais arrivé dans la vallée d'Aïd Moumez, un peu par hasard, enfin, tout à fait par hasard. Et à l'époque, je ne savais pas trop voyager, je ne savais pas trop comment m'organiser. Et donc j'en gardais un souvenir tout à fait émerveillé, mais un petit peu imprécis. Et j'étais extrêmement. Entre-temps, j'ai vu pas mal d'endroits, j'ai eu la chance de pouvoir voyager pas mal, et j'ai toujours gardé ce souvenir d'endroits assez magiques, féeriques, perdus dans la montagne. À l'époque, il n'y avait que la piste, c'était très isolé. J'étais très heureux de pouvoir y retourner à l'occasion de cette traversée.
Alors moi aussi, il m'en a pas fallu beaucoup pour te le proposer, parce que j'adore cette vallée. J'adore cette vallée, j'ai vécu quelques années, et puis on a beaucoup de personnes originaires de cette vallée qui travaillent avec nous. D'abord Zineb, mon épouse, et puis Brahim, Ali, voilà, sont des garçons originaires de la vallée de Bourgmès. Et puis voilà, Bourgmès fait partie de notre équipe. Voilà. Alors voilà, c'est parti avec la caravane. Et c'est étonnant parce que eh bien dans la journée, la journée démarre très tôt. Hein, il fait encore nuit que la bergère a allumé son feu pour préparer la cuisine, pour préparer le thé, la soupe du matin. Et puis quand le troupeau s'en va, il fait tout juste du jour. Elle part avec son petit baluchon, pas grand-chose avec elle. Elle part souvent toute seule, parfois accompagnée d'une de ses deux filles, pour conduire un troupeau de, je pense, il y avait à peu près 250 chèvres, 300 chèvres, avec les petits. C'est quand même très très impressionnant. Donc ce détour dans la vallée de Bourgmès, c'était l'occasion de marcher dans les jardins, de voir les cultures, une époque où la végétation est encore très verte à Bourgmès, puisqu'il y a l'eau qui s'écoule des montagnes tout l'été et qui permet d'alimenter ces jardins de pommiers, de maïs et de plantes. Et on a quitté cette oasis de montagne, surnommée Vallée Heureuse d'ailleurs. André Fougerolles, qui est un ancien baroudeur de la vallée de tout l'Atlas, avait surnommé la vallée de Bourgmès la vallée heureuse. Voilà, et c'est vrai que c'est une vallée où il y a beaucoup de joie parce qu'il y a de l'eau. Et l'eau, c'est quand même la vie, et ça permet voilà, une très belle vallée. Et on a quitté ces jardins pour partir sur le flanc du Jbel Azurki, de l'Azurki, que l'on a traversé, son flanc, pour rejoindre le lac Izouara. Et là, c'est assez impressionnant. Tu nous décris un petit peu comment le visuel d'Izouara, c'était comment?
C'était grandiose, une immensité. Ce lac asséché, c'était vraiment très très beau. Parce qu'en fait, il était recouvert de petites touffes d'herbe qui donnaient une couleur vert jaune. Et puis, ce lac est entouré de montagnes. Et c'est magnifique. Je crois qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de mots pour décrire ce paysage. J'étais époustouflée. Et j'en garde encore un souvenir ému. Et je pense que c'était mon bivouac préféré.
Wow, c'est bien. Et donc à ce lac Izouard, à 2600 mètres d'altitude, hein, 2580 à peu près au niveau du lac, eh bien là les bergères arrivent le soir, tard. C'est déjà le soleil est couché, presque la nuit. C'est juste au moment où Brahim fait l'appel à la prière. Et il y a tout ce grand troupeau qui arrive, qui a passé la journée toujours en marchant le plus loin possible de l'itinéraire de la caravane pour trouver du pâturage. Parce que sur le chemin, il n'y a pas suffisamment de pâturage où tout le monde passe. Et là, donc, on a les troupeaux qui arrivent le soir et puis qui sont installés autour du bivouac. Et toujours la scène, donc le chef de la caravane, installe son bivouac toujours appuyé à un flanc, à un talus, pour que les bêtes puissent se regrouper. Parce que la nuit, il va garder ses bêtes toute la nuit avec une lampe. Il somnole, et puis dès qu'il entend un peu de bruit, il surveille de vérifier que les bêtes ne s'éloignent pas, qu'il n'y ait pas un chacal qui soit autour ou un chien qui disperse les bêtes. C'est vraiment un travail difficile de ce métier de berger nomade transhumant. Pendant la transhumance, c'est beaucoup de travail. Voilà. Et le matin, et donc et le soir, soit la maman, soit la grande sœur, effectuer le repas pour la famille. Donc il y avait le feu qui s'allumait, la soupe, le pain, voilà, la cuisine qui se faisait. Et puis leur bivouac s'endort assez vite, hein, ils sont fatigués d'une grande journée. Donc la nuit est partie. Et le lendemain, nous sommes, depuis le lac Izouara, nous sommes remontés au fond de cette grande vallée pour arriver au pied du Tizi Nibrul, où nous avons bivouaqué. Non, on n'a pas bivouaqué au Tizi Nibrul. Nous avons franchi, nous avons fait un bivouac au bout de la vallée, au bout du lac Izouara. Et puis le lendemain, nous sommes partis sur le Tizini Brul, ce fameux col à 3250 mètres, qui nous amène sur les hauts plateaux, à l'entrée de cette grande traversée des cols à plus de 3000, où les jours suivants, on traversera sur ces vires. Donc peut-être, Philippe, si tu peux nous partager un petit peu ce bivouac, ce lieu d'altitude, où d'ailleurs nous avons eu un peu de pluie. C'était un bivouac assez incroyable.
Oui, un bivouac incroyable, parce qu'on est complètement accroché à la montagne, avec une sensation de vertigineuse, enfin, à la fois de confort, parce qu'on était sur un endroit très bien installé, et au milieu d'une immensité, avec le vide partout autour. Et effectivement, dans un météo un petit peu difficile, un ciel très chargé, et qui rendait les choses encore plus passionnées et impressionnantes, quoi, vraiment.
Ouais. Absolument, je me souviens de ces nuages noirs là, où la pluie a commencé à tomber. On apercevait les hauts de la vallée du Mugun, aux Irimt. Noir. On était au bord de ce plateau avec une gorge, un taria, ça s'appelle taria la gorge, en bas, c'était impressionnant, les chameaux étaient là. On avait un troupeau aussi de nomades de Mugun qui était installé sur notre droite avec au moins 300 brebis. C'était vraiment une ambiance tout à fait impressionnante. J'ai beaucoup aimé. Et puis le lendemain, on est parti un petit peu tôt pour traverser sur les vires, n'est-ce pas?
Alors les vires, enfin, j'ai envie de dire que c'est mon moment préféré, mais il y a eu tellement de moments préférés que c'est difficile. c'est difficile de le dire comme ça, mais c'est un moment incroyablement impressionnant, c'est-à-dire qu'on monte pour franchir un col qui est sur une crête extrêmement abrupte de part et d'autre, et vu de là, on n'imaginerait absolument pas qu'il y ait un chemin qui puisse passer sur cette falaise. C'est vraiment une falaise avec le vide au-dessus, le vide au-dessous. Et donc nous, on est resté sur le col pour voir comment les choses se passaient. On s'est fait dépasser par la caravane, un petit peu comme tous les jours, qui avançait plus vite que nous.
Ouais.
Et donc on a vu cette caravane s'engager sur la falaise, comme suspendue au-dessus du vide, avec un passage un peu délicat, enfin qui est un peu délicat au passage d'un virage et d'une source. Et c'est une image fabuleuse, vraiment, avec un vide de centaines de mètres en dessous, accroché sur un balcon. Ensuite, donc, quand on a suivi la caravane, on s'est rendu compte que sur ce balcon, il y avait un passage de 2 mètres de large qui était praticable sans difficulté technique majeure. Mais je préférais le pratiquer à pied que sur un chapeau.
Ouais, ça, c'est vrai. D'ailleurs, 2 mètres de large, mais tellement arrondi que souvent le chemin ne faisait que 20 cm, 30 cm de large. Il fallait regarder où on mettait ses pieds.
Tout à fait. Et moi aussi, je préférais être à pied et avec mon petit sac à dos plutôt que à dos de chameau avec leur gros panier sur le côté.
Et ouais, c'était tout à fait impressionnant. Et puis de voir les bergères qui courent là, après les chèvres, dans les pentes, avec des chaussures, des sandales en plastique. Vraiment incroyable. Voilà, c'est un passage très émouvant. Tout à fait. Très, très émouvant. Et là, après, on rejoint le troisième col. Un troisième col qui s'étire au bout de cette dernière vire pour descendre rejoindre un bivouac installé au pied du col. Alors là, on a passé un moment sympathique. On est arrivé en milieu de journée, il faisait chaud, on a mangé, à peine le repas terminé, les grosses gouttes sont arrivées avec de la grêle. On a dû remettre la bâche plastique sur la grande tente nomade pour être protégé. Bâche qu'on a mis souvent d'ailleurs parce qu'il a plu pratiquement les trois quarts de cette traversée. Mais heureusement, c'était une pluie qui arrivait en fin de journée, la nuit. Donc on était sous la bâche, dans notre sac de couchage, ça allait. Et puis donc les nomades étaient fatigués, ils ont choisi de faire deux étapes dans ce bivouac. Donc le lendemain, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester là à tourner en rond. Donc on est parti gravir un sommet à 3250 mètres, pas très haut, mais des pentes élevées et avec un point de vue extraordinaire sur les alentours, depuis l'Azurki jusqu'au Mugun, et puis on apercevait dans le fond aussi le Jebel Sahro, si je me souviens. Et puis là, nous sommes descendus dans une vallée, et puis nous sommes rentrés dans un canyon, une gorge, que nous avons descendue, et c'était assez particulier.
Ouais, c'est un canyon qui s'étire sur plusieurs kilomètres et qui se rétrécit au fur et à mesure jusqu'à mesurer peut-être 2 mètres de large. Et donc on est entre deux murs qui font 150 ou 200 mètres de haut sur un canyon de 2 mètres de large, avec encore un petit peu d'eau de la pluie des jours précédents. Et il y a des lumières extraordinaires. Le soleil par endroits réussit à traverser jusqu'au fond de la gorge. Par d'autres endroits, il y a une certaine obscurité. Et la roche est absolument magnifique et on a l'impression d'être au cœur de la terre, quoi. Enfin, c'est...
On a eu la chance, enfin la chance aussi, parce que c'est une chance d'avoir ces nuages, parce que les nuages donnent du relief. Et on a la pluie qui est arrivée, des lumières extraordinaires qui sont passées aussi au milieu de ces nuages, qui rendaient la falaise orange-rouge. C'était très beau. Effectivement, un peu glissant, il n'avait plus le jour précédent, il y avait ce qu'on appelle le riss. Ici, cette espèce de boue d'argile, oui. Et là, c'était très glissant, fallait faire attention. C'est vrai. Mais personne n'est tombé. On a pris nos précautions. Et on a retrouvé le bivouac après une grande journée de au moins 6 heures de marche, je ne me rappelle plus. Oui, 6-7 heures de marche même. On était bien fatigués, ouais, c'était. T'as raison.
Oui, 7 heures de marche avec une belle montée et puis l'arrivée sur les cailloux dans l'Oued, c'était un peu compliqué, mais c'était magnifique parce qu'en plus on arrivait au milieu des troupeaux et c'était très beau.
Et puis là, on descend une vallée le lendemain et on rentre sur le territoire des Mgoun. Les Mgoun, c'est tribus. Il y a une tribu Mgoun semi-nomade aussi qui transhume comme les Aitata, mais sur des territoires plus courts. Eux, ils sont accrochés au flanc sud du Mgoun et est. Et puis là, donc, ils sont là l'été avec leur troupeau, leurs chèvres, leurs moutons, mais également des dromadaires. Et puis donc on les a rencontrés souvent, ils habitent sous des petites tentes hein, très étroites, un peu comme des tentes canadiennes en tissu, qui étaient autrefois en paille et en laine, et également dans des grottes, des ifris. Et c'est un ensemble de trois grottes. Il y a deux grottes pour abriter les troupeaux en cas de mauvais temps, et puis une grotte habitée, que l'on voit habitée, puisque le plafond est noir de suie du feu qui permet de faire la cuisine. Voilà, donc on a descendu ce territoire des Mgoun. C'était par l'oued Imjdig. Et puis là, c'était assez impressionnant de voir la verdure. On a traversé des plaines vertes, hein, l'eau qui coulait.
Oui, juste un mot sur la marche de ce jour-là, c'est que habituellement, donc la caravane, à la fois de nos chameaux et des nomades partait avant nous, enfin partait après nous, c'est-à-dire qu'on démarrait un petit peu tôt et ils nous rattrapaient, ils nous dépassaient. Et ce jour-là, il se trouve que Catherine et moi, on a décidé de s'accrocher à la caravane, ce qui était un véritable exploit sportif, parce que
Ça challenge, quoi.
Les chameaux marchent à une vitesse inexorable de 5 km heure, quel que soit le terrain, quelle que soit la déclivité, quel que soit le climat, quel que soit quoi que ce soit. Et
C'est vrai.
c'était vraiment une marche passionnante, parce que physiquement, c'était un challenge. En plus, on était vraiment au cœur de l'activité, avec l'espèce de mouvement au contact de la tribu nomade et de nos chameliers. Et c'était vraiment très passionnant. Et voilà, donc j'ai un peu parlé il y a un break à casse-croûte.
Rapide.
Très épuisé, on s'est dit, ah chouette, il nous propose un casse-croûte. En fait, le casse-croûte a duré à peu près le temps que dure le ravitaillement d'un marathonien. Et on est reparti à 5 km heure. Et on est arrivé donc avec la caravane au campement, complètement rincé. On a eu juste le temps de souffler 2 minutes. Et là, on a eu comment dire, la fierté de pouvoir les aider à monter le campement, ce qui était
C'est ça,
quand
c'est
même,
bien.
ce qui était quand même une insatisfaction.
Donc toi, Catherine, qui as fait plusieurs marathons, ça t'a rappelé un petit peu l'ambiance sportive?
Oui, tout à fait.
Si je peux me permettre, il y a
Pardon,
quand même
oui.
quelque chose qui est particulier, c'est que Catherine a fait plusieurs fois le marathon des sables. Et au marathon des sables, la façon dont ça fonctionne, c'est que il y a des temps limites, des durées limites pour effectuer chaque étape. Et ce qui marque la durée limite, c'est un chameau qui marche derrière les gens qui courent.
Ah,
Si vous
d'accord.
êtes dépassé par le chameau, j'en parle, mais moi je ne l'ai pas couru,
Ouais.
mais j'en ai
D'accord.
entendu beaucoup parler. Et donc c'est un chameau qui suit les coureurs. Si le chameau te dépasse, tu es hors jeu.
Ah, d'accord. Je
Et donc
savais
là,
pas.
Et là, ce jour-là, j'ai couru après le chameau tout le temps, essayé de
pour
le
pas être dé...
dépasser
C'est bien.
pour pas être disqualifié, quoi.
Voilà, mais bravo. Félicitations. C'est une grande journée. Ouais. Marcher avec les chameaux, avec la caravane chargée, on n'imagine pas, mais ils ne s'arrêtent pas. Parce que nous, bon, une heure ou deux, on fait une petite pause toilette. Ben là, les chameaux, il n'y a pas de pause toilette, c'est direct. Ils marchent d'un pas très régulier.
Voilà.
Et il faut être bon marcheur pour suivre le pas d'un chameau.
C'est un paysage magnifique avec
Ouais.
un oued qui a coulé presque tout le temps et des prairies de verdure magnifiques qui s'enchaînaient les unes derrière les autres au pied de petites falaises opaques, de petites falaises ocre magnifiques.
Et puis au pied de ces falaises, il y avait à peu près une vingtaine de campements Mgoun que l'on a croisés, qui étaient installés là sur les flancs de la rive gauche ou de la rive droite, avec des petits troupeaux. Là, c'était des petits troupeaux, des familles assez pauvres. Ils avaient des troupeaux centaines de bêtes, 150 bêtes. C'était pas la même chose que sur les hauts plateaux. Et là, il y avait toutes ces familles tout le long. Et d'ailleurs, j'étais avec Fabienne et Monique. Et avec Fabienne particulièrement, on a fait un arrêt thé chez les nomades parce qu'on était un peu fatigués. Donc la dame, nous voyant passer, nous a proposé un verre de thé. On n'a pas dit non. On a pensé à vous d'ailleurs.
Mais nous, on n'a pas eu.
Ben
Juste
ouais.
à l'arrivée.
Voilà. Et ben voilà. Nous, on a eu en route et à l'arrivée. Donc après cette grande journée dans l'oued Mjdig, où nous avons rencontré ces nomades Mgoun installés au long de l'oued, nous avons le matin quitté notre caravane pour attirer par une gorge que j'ai repérée le soir, que j'avais jamais faite. Donc j'ai vu qu'il y avait un passage qui était intéressant et puis on est parti marcher sur les vires de cette falaise. Donc on les a quittés pendant quelques heures pour les rattraper après. Donc on a marché sur des vires dans l'eau. C'était assez une très belle vallée et j'étais intrigué par les multitudes de traces de ces chèvres et de ces brebis qui, dans les pentes raides, traversent pour trouver leur pâturage. Et là, nous avons marché sur ces vires pour rejoindre une piste que l'on a suivie et rattraper notre famille nomade un peu plus loin. Voilà. Et puis, dans cette traversée de l'Atlas, nous avons franchi un certain nombre de plissements rocheux de l'Atlas. Et vers la fin, après, nous avons franchi le... Oh, j'ai un trou. Nous avons franchi le Tizin Toudet. Tizin Toudet voulant dire le col de la Mouflonne. Un col où on a une vue assez lointaine. Et puis là, on arrive sur le versant sud de l'Atlas, beaucoup plus caillouteux, rocailleux. C'est moins la haute montagne, c'est des plaines, c'est des montagnes désertiques, arides. Et puis, toujours des campements de Mgoun, mais qui s'espacent, il y en a moins. Mais on voit les traces, c'est un endroit où ils vont séjourner plutôt au printemps ou à l'automne. Voilà. Et puis là, on arrive sur les plaines plus au sud de l'Atlas. Nous avons plusieurs fois l'expérience de marcher avec les bergères et les chèvres. Et là, il n'y a pas de chemin. Qu'est-ce que tu en penses, Catherine?
Alors moi, habituellement, pas de chemin, j'aime pas. J'aime pas. Mais là,
Là, t'as mis.
j'ai toujours peur d'être perdue. Et là, c'est. Bah, en fait, c'est très sympa. On suit le troupeau, les bergères. Et en fait, il n'y a effectivement pas besoin de chemin parce que les chèvres savent très bien où elles doivent aller. Et
Et nous, on ne sait pas tellement où elles vont.
on ne sait pas tellement où elles vont, mais on ne se prend pas la tête,
C'est
quoi. En
ça,
fait,
exactement.
c'est facile. C'est
Exactement.
facile.
Facile, mais les pentes un peu raides.
Les pentes un peu raides, effectivement, ce dernier jour a été un peu
Aride,
glissant,
aride,
aride,
aride.
aride. Et du coup, il fallait faire attention où on
Ouais.
mettait les pieds. Et voilà, et attention où on mettait. Voilà, chaque caillou pouvait rouler.
Exact.
Très attention, même si on était très bien équipés par rapport aux bergères.
Ça, c'est vrai. Ça,
C'est
c'est vrai.
incroyable, ça.
Et puis, après, on rejoint donc l'espace du dernier plissement rocheux. Et là, le lieu de notre bivouac s'appelle Tililitine. C'est un lieu où les ro lauriers roses poussent parce qu'il y a une source qui sort. Un lieu de verdure aride, une petite oasis au plissement des montagnes. Et on a retrouvé notre campement, le dernier campement avec les nomades. Et là, on a eu l'occasion de partager un moment particulier. On a souvent la coutume de sacrifier une bête pour toute la famille, pour l'équipe et pour les voyageurs. Tout le monde est content de manger cette viande qui a couru les montagnes. Et là, donc, on a commencé par les brochettes à midi. Donc, c'est un repas qui a duré jusqu'à 15h30. Donc, entourer le foie, les abats de crépinettes cuits sur la braise. Et puis, en fait, on cuit quelques brochettes que l'on mange. On cuit les suivantes. C'est pas toutes les brochettes sont cuites en même temps. On fait un gueuleton d'une fois. Donc, ça s'étire et tout le monde en prend quelques morceaux. Et puis, ça dure un certain temps. Dans la soirée, on a mangé tous ensemble, donc avec la famille nomade. On a attendu que la bergère soit rentrée, Tloho, et puis son troupeau. Et puis nous avons mangé ensemble sur un tapis. Et c'était tout à fait sympathique de partager ce moment. Difficile pour eux d'habitude parce qu'ils travaillent trop. Et là, c'était le dernier bivouac, donc c'était l'arrivée pour eux aussi. Ils étaient très contents. Et donc, on a mangé cette viande cuite à la vapeur. C'est assez particulier.
Oui, c'est très tendre, très la viande est très goûteuse et voilà et voir comment elle était préparée, cuisinée sur dans ce couscoussier sur du feu de bois et refermée. Mais ça, je pense que c'est pas traditionnel avec un sac en plastique.
Oui, c'est
Mais
vrai.
bon, on fait avec les moyens du bord
C'est ça.
et en fait, c'était juste excellent. Excellent, c'était très très bon.
Oui, la viande est cuite dans un haut de couscoussier. Et autrefois, ils devaient mettre une peau de bête qui était de cuir, quoi, qui maintenait la pression avec un petit trou pour pas que ça explose. Et puis en fait là, les chameliers et les familles nomades se débrouillent très bien avec un sac plastique qu'ils accrochent avec une ficelle autour du haut du couscoussier comme un couvercle en fait, qui est très serré avec une ficelle et ça fait une pression qui monte en température la viande avec la vapeur et c'est vraiment délicieux. Voilà, ce repas était succulent, c'est un moment vraiment extraordinaire. Et le matin, c'était assez curieux car au moment de partir, la famille nomade était prête et ils sont partis. Nos chameliers sont partis, puis nous on est restés les seuls avec Ali au bord de l'Oued en attendant que le chauffeur arrive. Et puis finalement on a rattrapé à pied la famille nomade. C'était un moment tout à fait agréable de retrouver le troupeau et de les aider à faire la dernière longueur avant qu'on parte.
Voilà, enfin, on a rattrapé donc la bergère qui poussait son troupeau. Le troupeau, contrairement aux autres jours, était très regroupé. D'habitude, le troupeau est éparpillé sur un ou deux, voire trois flancs de montagne. Et donc, elle est sur un point un petit peu haut et gère un petit peu tout ça. Et les bêtes sont très, très éparpillées partout. Et là, donc, pour traverser la route et le village qui s'annonçait derrière, elle avait regroupé tout son troupeau qui faisait une masse dense de chèvres. On mesurait bien le nombre de bêtes qu'il y avait. On était à contre-jour. Dans l'Oued, le troupeau dans l'Oued soulevait un petit peu de poussière. Il y avait cette lumière au travers de la poussière. Les cris de la bergère et les cris des chèvres qui rythmaient tout ça. Le bruit des sabots. Et une ambiance très prenante également. On avait vraiment l'impression, on arrivait derrière eux et on avait vraiment l'impression que c'était un générique de fin.
C'est
Et
juste.
on les a vus traverser la route et s'engager au-dessus du village. Et voilà, elle partait pour
Pour la suite.
notre épisode était terminé. Elle partait pour la suite.
C'est ça. Et ces nomades qu'on a accompagnés, en fait, cette année, il y a eu seulement quatre familles qui ont transhumé depuis Tamda. On les a vus, nous ont croisés, on s'est doublés quelquefois. Et on les a revus le dernier jour encore sur le parcours dans l'Oued. Et donc, c'est pas beaucoup de nomades. Je me rappelle, il y a 30 ans, il y avait une cinquantaine de familles nomades qui transhumaient à l'aller autant qu'ils revenaient au retour. Maintenant, là, sur ces quatre familles qui sont venues, Deux autres familles, en fait, ils étaient six, deux autres familles sont rentrées en camion. Voilà. A priori, ils m'étaient annoncé que c'était fini la transhumance, qu'ils arrêtaient, mais j'ai l'impression que la famille qu'on a accompagnée, ils sont pas prêts d'arrêter. Voilà, j'en ai parlé un petit peu à la scène, et puis il m'a dit, on va voir, on va voir. Alors peut-être que cette caravane va continuer encore un peu, transhumer encore un petit peu pour rejoindre l'Atlas et puis pour partir dans les plaines du Drac. Je leur souhaite, parce que c'est une vie assez extraordinaire pour nous qui venons de l'extérieur, mais en même temps, je leur souhaite la modernité. Si les autres ont arrêté, c'est que la vie est difficile et que bien, les enfants doivent aller à l'école. Et là, c'est des enfants qui ne vont pas aller à l'école. C'est un peu triste de voir ça, puisqu'ils seront déphasés du reste du monde, en fait, et du reste du Maroc. Donc, on peut comprendre la nécessité d'arrêter pour transformer leur vie, peut-être plus moderne, moins difficile, moins difficile, avec un peu plus d'espoir. On leur souhaite. Voilà. Les nomades Mgoun, par contre, je pense qu'ils vont continuer encore. Ils étaient nombreux dans ces montagnes. Et je pense qu'il y aura encore des nomades Mgoun encore quelques années. Mais les Itata, c'est la fin. Peut-être l'année prochaine, encore une transhumance. On ne sait pas. On verra. Voilà. Peut-être un petit mot à rajouter, Catherine? Pour ce voyage?
Si c'était pas la dernière transhumance avec cette famille, moi je m'inscris pour une prochaine fois et les accompagner jusqu'à chez eux dans le Saro.
Ah oui, c'est intéressant ça, effectivement.
Un mot de conclusion, bah oui, effectivement, enfin, un voyage comme ça permet de mesurer la dureté de leur de la vie de de cette population, en termes de ce qui leur manque en termes de protection de santé, de protection d'éducation, les difficultés physiques, parce qu'on a vu parfois leur roi arriver épuisé le soir. On a vu aussi la scène épuisée le matin, parce qu'il s'est gardé le troupeau le soir.
La
À
nuit.
contra... Parce qu'il travaillait toute la nuit. À contrario, il y avait quand même quelque chose qui était extrêmement perturbant, c'est de voir qu'ils avaient l'air épanouis dans ce qu'ils faisaient. Et l'image la plus criante, c'est celle de la petite Siham, qui au départ ne devait pas faire partie de la transhumance, elle devait repartir en camion. Et donc elle a fait la seule fois où on l'a vue pendant la semaine, pendant tout ce parcours. La seule fois où on l'a vu avoir un geste d'être un petit caprice, c'est parce qu'elle voulait suivre son père et marcher pendant 10 jours. Et pendant ces 10 jours, on l'a vue épanouie, souriante en permanence. Je crois que je l'ai jamais vue marcher. Elle a passé son temps à gambader, à sauter à droite à gauche, de rocher en rocher, à pousser ses ânes, s'accouder sur le dos des chameaux. En rigolant, enfin vraiment, c'est une image de joie de vivre, de joie de vivre de tous les instants. Et donc, voilà, enfin, nous on bénéficie de beaucoup de choses, d'énormément de choses, qu'on mesure pas forcément tous les jours, dont on mesure pas forcément la valeur et ce qu'il a fallu pour l'acquérir, et le prix que ça peut avoir. Et en même temps, quand on les voit, on se dit qu'on a peut-être perdu quelque chose dans la bataille, parce que dans le progrès, on a peut-être perdu quelque chose, parce qu'on n'est pas capable d'avoir cette joie de vivre, cette spontanéité, cette joie de vivre.
C'est vrai, cette petite Siham, le premier jour de marche avec la caravane, le matin, il était prévu que Siham, elle reparte avec sa grand-mère, avec la moitié du troupeau, pour repartir avec le camion, pour rentrer de l'autre côté. Effectivement, elle a fait un petit caprice, comme tu as dit, à son père, en lui disant « moi, je veux partir ». Et le père l'a renvoyée, elle est revenue en courant. Elle a fait la transhumance avec une petite robe. Elle n'avait pas de bagage, petite robe rouge. On lui a passé quelques tricots, mais elle a fait la transhumance alors qu'elle n'était pas prévue qu'elle la fasse, et elle avait une joie de vivre extraordinaire. C'était une leçon de vie. Une leçon de vie, ce voyage avec sa sœur Isa, avec Tloho, la mère joyeuse tout le temps. On l'a jamais vue triste, on les a jamais vus tristes, un peu fatiguées, surtout la scène. Mais les filles, elles étaient joyeuses, c'était une joie de partager ce voyage avec elles. Voilà. Je vous remercie, Catherine et Philippe, pour votre témoignage. Et c'était une joie d'avoir effectué cette transhumance, peut-être la dernière, peut-être on en fera une, on ne sait pas. On verra ce que l'avenir nous offre. Merci à vous et puis bon retour.
Merci.